Cours des critiques par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard le 10 mars 1994.
Nous en sommes à cette question de la critique de l'intelligence artistique. C'est particulièrement délicat. Oui, si. Préciser ce point de vue de la subjectivité transcendantale, c'est en fonction de l'intelligence artistique. Alors, ce qu'il faudrait voir exactement ce qu'il y a de juste, dans quelle mesure. Saisie par l'inspiration. L'inspiration existe, je crois. C'est difficile de dire que ça n'existe pas. Certains artistes disent que ça n'existe pas, il n'y a que le métier. Parce que ceux qui n'ont jamais eu d'inspiration, ben ça n'existe pas. Ceux qui n'ont que du métier, il n'y a que le métier. Vous voyez, c'est comme ceux qui remplacent la métaphysique par la logique. Alors la métaphysique n'existe pas. C'est la logique. La logique, c'est le métier. Tout le monde peut faire de la logique. La métaphysique, quelquefois, il y a des obstacles qui sont terribles. Il y a des a priori. Et quand Nietzsche dit que ce qu'il y a de plus horrible pour lui, c'est la métaphysique et la compassion. Je crois que c'est difficile quand on dit ça comme a priori, de découvrir ce que c'est que la métaphysique. Alors Nietzsche découvre, ça c'est sûr, l'intellect artistique, la créativité. Et la créativité provient de l'inspiration, c'est le fruit de l'inspiration. Qu'on mette ce mot créativité ou inspiration. Alors c'est un sujet extrêmement intéressant de regarder l'histoire, le point de vue historique de l'inspiration. Parce que vous avez tout. Depuis les muses, les filles du soleil qu'on invoque, Hésiode, on invoque les muses pour avoir quelque chose qui nous permet de décoller. Parce que c'est ça l'importance. On est au-dessus de cette espèce de quotidien habituel qui n'est pas très poétique. N'est-ce pas ? On veut avoir quelque chose qui est au-delà de ce que, comme un des mortels, regardent ceux qui sont dans la caverne. On a des inspirations poétique, musicale, des inspirations intellectuelles aussi. Alors, il ne faut pas mettre, vous voyez, le point de vue de l'inspiration comme commun à tout. Je crois que la véritable inspiration d'ordre artistique. Alors, on a plus fait de philosophie de l'inspiration. Et par le fait même, on ne sait plus ce que c'est que la théologie de l'inspiration. Parce que saint Thomas a fait une théologie de l'inspiration. Mais il n'y a pas de philosophie de l'inspiration. Cherchez. Dans une ligne qui soit une ligne réaliste. Ça n'existe plus. C'est très important. Je crois que c'est très important pour nous, tout le point de vue de la philosophie, de l'activité artistique. Parce que ça répond à des tas de questions actuelles qu'on ne comprendrait pas et qu'on ne peut pas comprendre si on ne voit pas ce que c'est que l'activité artistique. On mettrait tout de suite ça dans l'imagination. absolument pas déblayer. Et on doit le déblayer. Donc, parmi vous, celui qui désire faire quelque chose d'intéressant pour augmenter la précision philosophique, de faire la critique de la connaissance artistique. Et voyez que tout de suite, vous faites la critique de la connaissance artistique, de l'activité artisanale. C'est pas la même chose. De l'activité industrielle, c'est pas la même chose. De l'activité artistique proprement dite. Et alors, tout de suite, la diversité. Vous ne critiquez pas de la même façon l'art de la danse, l'art du théâtre, l'art de la peinture, et ainsi de suite, de la sculpture. Alors, il y a quelque chose de commun. Il y a quelque chose de commun. Ça, c'est sûr. Mais en même temps, il y a cette chose très curieuse, c'est que les arts ne sont pas connexes, tandis que les vertus sont connexes. Donc c'est beaucoup plus facile de faire la critique de la connaissance éthique, morale, que la critique de la connaissance artistique, puisque par définition, les arts ne sont pas connexes. C'est pas parce que vous êtes un très bon musicien que vous allez être un très bon peintre. C'est pas parce que vous êtes un peintre merveilleux que vous allez être l'homme du théâtre ou l'homme de la poésie. Mais il y a cependant quelque chose de commun. C'est que le poète ou le peintre connaît de l'intérieur l'artiste, puisque le poète est un artiste, c'est peut-être même l'artiste par excellence. Le peintre est artiste, il connaît donc, c'est peut-être l'artiste par excellence. Chaque art a quelque chose de premier et d'unique. L'art de la lumière, l'art du volume, l'art du langage, et ainsi de suite. Il y a quelque chose chaque fois. Alors, c'est ça qui est très intéressant à voir. Et comme ce serait très intéressant, moi, du proprement philosophique, de voir la personne de l'artiste. sur quoi se fondent-elles? Mais elles se fondent sur qu'est-ce que c'est qu'une œuvre artistique? Alors, je crois qu'on peut dire, voyez, qu'il y a une œuvre qui se tient. Tandis qu'on pourra dire, mais l'autre, c'est une copie. Il n'y a rien. Pas un pouce d'inspiration. C'est la série. Là, il y a quelque chose qu'on peut dire, là. Mais alors, vous voyez, c'est ce que je voulais dire. C'est qu'au fond, est-ce que la critique d'art n'est-elle pas une sorte de pédagogie pour nous montrer qu'il y a quelque chose d'intéressant là? Comme l'homme vertueux dit, il y a quelque chose d'intéressant là. Il y a une dimension humaine de ce côté-là qui est authentique. C'est pas toujours commode. Et c'est l'homme vertueux qui devient mesure de l'activité morale. Et l'artiste, un artiste peintre, mais son avis sera toujours intéressant. Vous voyez, son avis pour écarter tout ce qui n'est pas vraiment artistique. Alors, c'est très négatif. On écarte. Non, ça ne vaut rien. Là, je ne sais pas, il y a quelque chose quand même d'intéressant. Il y a quelque chose. Inspiration. Alors, d'où ça viendra? C'est pas l'originalité, parce qu'il y a des originalités complètement stupides. Mais quand vous regardez un arbre qui relève purement de l'instinct, vous attachez un pinceau à la queue d'un âne. Vas-y, mon vieux. Stupide. Vous avez le droit de le dire, complètement stupide. Le hasard n'est pas artistique. C'est la mort de l'art. Mais alors là, on a le droit. Et si vous avez dit que cette critique est presque plus pédagogique pour indiquer là où il y a quelque chose d'intéressant. C'est très intéressant d'essayer de comprendre ce point de vue-là. Et c'est ça que je veux dire, vous voyez. C'est que l'œuvre d'art a quelque chose d'unique. Alors on peut écarter, dire ça, c'est sûrement pas patrimoine humain. Et c'est peut-être la question du patrimoine humain. Qu'est-ce que c'est que le patrimoine humain? C'est ce qui permet d'avoir un milieu dans lequel l'homme peut se développer. Et développer en lui ce qui est authentiquement humain. Quand on développe quelque chose qui n'est plus authentiquement humain, ça ne fait pas partie du patrimoine. C'est quelque chose qui est à côté, qui est une déviation, et qui quelquefois est du venin. Alors il faudra le détruire. Mais ça ne se fait pas, parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas, vous voyez, une autorité ou un comité qui aurait cette autorité. Alors on laisse des choses complètement idiotes dans le patrimoine d'un pays qui est du venin et qui fait du mal. Parce qu'il y aura toujours des imbéciles qui se mettront à l'école d'imbécilité. Tout. C'est même ce qu'il y a de plus commun. Les choses les plus grandes, ordinairement, restent assez solitaires. Ils mettent du temps avant d'entrer dans le patrimoine humain. Alors, vous voyez, si le patrimoine, c'est ce qui permet à un pays de développer ce qu'il y a de propre dans son génie, le génie d'un pays, le génie d'une culture, le patrimoine permet de maintenir ça. Et cela touche l'homme dans sa finalité, dans son développement. Le patrimoine intellectuel, le patrimoine affectif, le patrimoine artistique, mais c'est toujours l'art qui porte et qui peut porter l'expression de ce patrimoine intellectuel, de ce patrimoine affectif. Le patrimoine philosophique peut s'écrire, peut se transmettre. Vous voyez, mais il se transmet toujours par l'art. Il y a l'art d'enseigner. Et l'art d'enseigner fait partie d'un patrimoine, d'un pays. Et il y a les œuvres qui demeurent. Alors vous voyez, c'est ça que je voudrais préciser, la différence entre le point de vue critique et le point de vue éducatif. Je crois qu'on éduque un pays à l'œuvre artistique. Il y a des pays qui ont gardé des traditions artistiques. Ça fait partie de leur patrimoine. Il y a des pays qui ne l'ont pas. Qui ne l'ont pas encore. Qui ont dissipé ça. Ils ont dissipé pour des tas de raisons, n'est-ce pas? Mais c'est intéressant de voir comment un patrimoine artistique se dissipe. l'Église, il faut voir, c'est ce besoin de l'humanité de garder. C'est difficile de garder, de garder. On ne peut garder d'une façon vraie que dans la mesure où ça progresse. Le jour où ça ne progresse plus, ça devient un musée. Le musée fige. Et donc arrête. Et un pays où il n'y a plus que des musées, ça prouve que c'est pas très vivant. Le musée éduque, c'est sûr. Ça éduque. Ça, c'est l'œuvre. L'œuvre d'art est fin et fait. Elle est fin et fait de Lydia. Lydia est mesure de l'œuvre d'art. Mais l'œuvre d'art est quand même fin. En tant qu'elle était faite, elle est mesurée. Mais en tant qu'elle est fin, elle polarise. L'idéal. Et la fin, c'est l'apport de la matière. La matière n'est pas dans l'idéal. Elle est autre que l'idéal. Et donc, l'œuvre d'art aura toujours quelque chose qui sera plus que l'idéal. Et qui va s'imposer à l'idéal. Et qui permet de considérer que l'œuvre comme telle va jouer un certain rôle de mesure. Mais cette espèce de chose très curieuse, regardez la dialectique du maître et de l'esclave. Voyez, ça c'est la grosse critique à Kant, puisque même dans l'œuvre artistique, la subjectivité transcendantale est un mythe. Je ne peux pas dire que l'idéa est déesse, qu'elle est Dieu. Non. L'idéa demande la coopération de l'œuvre, de la matière. Et la matière apporte quelque chose à l'idéa que l'idéa n'a pas. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Et là, c'est la matière. Et dans les temps où on vit un idéalisme forcené, la matière demande d'être respecté. Et c'est là où le point de vue artisanal reprend sa force pour assainir l'idéalisation de l'œuvre artistique ou de l'artiste. Je crois que c'est ce qu'on vit actuellement. On voit très bien que le point de vue artisanal reprend une très grande force. Parce que l'artisan, c'est celui qui a le sens de la matière. Et l'artisan vous redonne le sens de la matière. Et là, apporte quelque chose qui corrige l'idéa. Les idéas d'aujourd'hui sont terriblement idéalistes. C'est presque un dieu. Il peut y avoir une idolâtrie de l'idéa. On adore l'idéal plutôt que d'adorer la volonté de Dieu. On adore l'idéal et l'idéal devient un absolu. C'est l'idée de ma vie. Je veux réaliser tout bruit ça. Que j'en meure pas, ça m'est égal. Je veux réaliser ça. Vous voyez, ça devient l'idole. Et l'idéal, très facilement, il y a une parenté entre idole et idéal. l'idéal peut devenir idole. Et alors, quand l'idéal devient idole, c'est quelque chose d'absolu qui fait marche ou crève. On voit très bien. On doit réaliser ça à tout prix. Et on ne respecte plus la matière. On ne respecte plus l'homme. Et la subjectivité transcendantale réalisée dans l'idéa s'impose. Je crois que c'est très important pour nous. Parce que c'est ça qu'on doit comprendre dans notre monde d'aujourd'hui. On est un monde où l'idéa est idole. Aussi bien au point de vue scientifique qu'au point de vue artistique. Parce que c'est le fruit dernier de toutes les idéologies. Alors on est pris par l'idéa d'une façon telle que ça devient idole. Et l'homme en meurt. Parce qu'il n'y a plus le respect de la matière. Il n'y a plus le respect suffisant de l'homme. L'art est pour l'homme et non pas l'homme pour l'art. Est-ce que je suis finalisé par l'idéa? Ou est-ce que l'idéa me permet de découvrir ma finalité? Ma vraie finalité? Ma finalité d'homme? Parce que l'homme n'est pas identique à l'artiste. Vous voyez, le marxisme identifie l'homme à la praxis. Donc à la réalisation. Et là, on est en face de quelque chose de monstrueux. Parce que c'est l'homme qui est relatif à l'idéa. Alors que l'idéa doit être pour l'homme. Dans l'œuvre. Quand l'idéa accepte d'être dépassée par l'œuvre, elle peut être au service de l'homme, par l'œuvre. Mais quand l'idéa n'accepte pas d'être dépassée par l'œuvre, on devient tyran. Et l'idéa nous tyrannise. Oui, alors là, on peut dire qu'il y a non pas une critique de l'art, mais une critique de l'idéa. Alors là, je suis d'accord qu'il y a une critique de l'idéa. Et la critique de l'idéa, c'est se demander si l'homme, si l'idéa devient idole. Les idoles, c'est ça. C'est quand l'idéa s'impose à l'homme d'une façon telle que l'homme devient esclave. Son idéal, il est mesuré par elle. Alors la vraie finalité de l'homme disparaît. Et la vraie finalité de l'homme, c'est relatif à Dieu, à une personne, à l'ami. Et l'idéal peut, en devenant idole, tyranniser l'homme et l'empêcher de découvrir sa vraie finalité. Et son idole devient son masque. Il voit tout à travers l'idéa. Vous voyez, là, il y a une critique. Mais c'est une critique qui doit se faire non pas par rapport à l'œuvre, mais par rapport à l'idéa. Faites attention, votre idéa devient votre idole. Et ce n'est plus une véritable idéa. Puisque la véritable idéa conduit à l'œuvre et permet à l'homme d'utiliser l'œuvre et donc permet à l'homme de redécouvrir autre chose que son idéa, l'amour, qui est la seule vraie finalité de l'homme, la relation avec une personne.